franceinter.fr. Le 7-9, Patrick Cohen sur France Inter.
Bonjour Éric Coquerel.
Bonjour.
Coordinateur du parti de gauche. Il vous inspire quoi d'abord le sacrifice de François Bayrou au profit d'Emmanuel Macron?
En décembre, je vous en citerai pas beaucoup, mais en décembre 2016, François Bayrou disait: derrière Emmanuel Macron, il y a de grands intérêts financiers incompatibles avec l'impartialité exigé par la fonction publique.
Donc vous souscrivez, c'est ça?
Écoutez, oui, alors je souscris. Bon, ce qui m'étonne, c'est que il ait aussi vite renié cette position, mais surtout au-delà de ça. En réalité, je pense que ça va peut-être permettre de mettre fin à une entourloupe. Parce que Emmanuel Macron, vous savez, c'est un peu l'illustration de Guy Debord, il y a 50 ans, la Société du spectacle. Voilà. Il y a le système se cache derrière des artefacts et qui nous joue à l'anti-système, alors qu'on sait que depuis 10 ans, en réalité, Macron, que ce soit dans les banques ou que ce soit au gouvernement, applique une politique qui est celle que nous connaissons, de compétitivité libérale, etc. Et l'intérêt peut-être finalement du ralliement de Bayrou, ça va resituer Macron où il est, c'est-à-dire un candidat de centre-droite, comme il y en a toujours eu. Vous avez eu Poher, vous avez eu Le Canuet, vous avez eu Balladur. Et ben maintenant, il y aura Macron.
À vos yeux, ça prouve que Macron est de droite, mais à ceux de la droite, ça prouve qu'il est de gauche.
Ça prouve aussi que le gouvernement dans lequel il était depuis 5 ans a fait une politique de droite, rétrospectivement, je peux remarquer. Lui, il ne se dit pas de gauche. Ça, c'est vous qui le disiez, mais lui, moi, j'entends, il dit ce que dit en général un candidat de centre-droit, c'est-à-dire, je me situe au-delà. Mais son programme, lui, ubérisation de la société, oui, baisse...
J'allais vous demander, est-ce qu'il y a une mesure programmatique d'Emmanuel Macron qui vous fait horreur et qui, selon vous, prouve son ancrage à droite?
Vous les connaissez, ces mesures programmatiques? Il n'a toujours pas sorti son programme.
Ah oui, on en connaît quelques-unes.
Oui, je connais la baisse des dépenses publiques, donc la continuité de la politique qui est appliquée maintenant en France depuis 10 ans avec les résultats que nous connaissons. Je connais effectivement son penchant pour l'ubérisation de la société, qui est quand même absolument une catastrophe, et dont les victimes premières, c'est-à-dire ceux qui travaillent justement dans ces conditions, sont en train de plus en plus ils sont en train de protester.
La socialisation du risque chômage, par exemple.
Mais vous savez, une politique qui continue à produire autant de chômeurs, d'accord, telle que celle qu'il propose, la politique de l'œuf, qui pense toujours que il faut baisser le prix du travail pour faire en sorte que les profits soient les plus importants et demain va produire soi-disant un progrès pour tout le monde, ce qu'on nous serine depuis 30 ans et qui fait chèque partout. Si après vous mettez des pansements pour essayer de solutionner les choses, je n'y crois pas pour ma part. C'est ce qu'on constate comme politique depuis une dizaine d'années. La politique macroéconomique de Macron, c'est la poursuite de la politique de compétitivité. C'est la règle d'or, en fait. Vous savez, moi, je pense que cette élection, il y a 3 règles. Il y a la règle d'or des libéraux, Macron, Fillon, c'est-à-dire la continuité, finalement, des politiques d'austérité et d'offre. Il y a la règle brune, on en parlera peut-être après de Marine Le Pen, sur la constitutionnalisation du principe de préférence nationale, qui est absolument dramatique et racialiste. Et puis, il y a la règle verte que nous proposons au niveau de l'écologie, c'est-à-dire de faire primer l'intérêt général, continuer à pouvoir respirer cette planète, ne pas consommer plus que notre planète peut produire, et d'une manière globale, remettre la question du partage des richesses, l'intérêt général, au centre de la vie politique française.
Alors, on va tourner la page Macron, une alliance Bayrou-Macron peut peut-être créer une dynamique, nous verrons. À gauche, Éric Coquerel, pas de dynamique, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon vont rester chacun dans leur couloir.
J'en sais rien, demandez-le à Benoît Hamon. Enfin, c'est quand même extraordinaire.
L'un des porte-parole de Jean-Luc Mélenchon face à moi, donc je vous demande à vous.
Je constate ce que nous avons fait.
Oui.
Benoît Hamon a expliqué avant, le soir du deuxième tour des primaires.
Allez-y, on va pas refaire toute l'histoire.
Il explique qu'il téléphonera à Jean-Luc Mélenchon dès qu'il sera élu. Jean-Luc Mélenchon dit: ok, je suis disponible pour un café. On a attendu des jours, des semaines. Bon, au final, on s'est dit, on ne peut-être pas continuer à attendre longtemps. Jean-Luc Mélenchon, à Strasbourg, propose un rendez-vous pour la fin de cette semaine à Benoît Hamon, lui écrit une lettre.
Il lui adresse une lettre dans laquelle il lui dit « Si tu reprends mon programme, on peut discuter ».
Non, vous schématisez trop. Il prend certains grands axes du programme et surtout, il prend des garanties pour que, quelque part, on ne refasse pas le coup du Bourget. Nous, on prend positivement ce qui s'est passé avec Benoît Hamon. Il a battu Valls, c'est-à-dire qu'en gros, il nous a donné raison sur notre position pendant 5 ans à la politique de ce gouvernement. D'accord ? On dit simplement, il nous faut des garanties, on ne va pas recommencer de la même manière. Les Français, d'ailleurs, ne suivraient pas. On fait une lettre. Le vendredi soir, il y a Cambadélis qui envoie une première salve en parlant des 21 conditions, vous savez, la référence au mouvement communiste du début du siècle. Il se fait d'ailleurs taper par David Cormand d'Europe Écologie, qui lui dit « ça serait bien de se taire ». Non, laissez-moi continuer. Et à ce moment-là, Cherki et les proches de Hamon vont chercher un mot dans une émission de BFM. Moi, j'ai regardé l'émission, je ne sais pas vous si vous l'avez regardé, je n'ai même pas entendu ce mot tellement la main tendue de Jean-Luc Mélenchon était claire. Oui. Et là, depuis, bon, bah, il ferme la porte.
Le mot, c'est corbillard, on l'a diffusé
enfin, moi,
sur cette antenne.
La lettre de Jean-Luc Mélenchon est toujours sur la table.
À propos du Parti Socialiste, d'accord.
Parce que c'est suffisamment important, justement, de discuter et de vérifier si, en réalité, Benoît Hamon est le candidat du Parti Socialiste, d'accord, c'est un avatar finalement de Valls, Cambadélis qui sont derrière son char, ou si véritablement bah, il choisit les 1 200 000 personnes qui ont voté pour lui pour une autre politique. Voilà, nous on est toujours prêts à discuter.
Non, si, pardon, je voulais pas vous couper la parole, mais ces chamailleries de petites phrases, ça paraît dérisoire au regard des enjeux électoraux. Qu'est-ce qui, sur le plan programmatique, puisque les programmes sont sur la table, celui de Benoît Hamon et celui de Jean-Luc Mélenchon, l'avenir en commun, qu'est-ce qui vous paraît incompatible sur le plan programmatique entre les deux candidats?
C'est ni des chamailleries ni des problèmes d'égo. D'accord. Nous avons posé la question des garanties. Il y en a eu une première. On ne fait pas une politique différente avec les hommes du passé et ceux qui, depuis 5 ans, ont appliqué la politique justement de M. Macron, entre autres, M. Valls, etc. Première règle qui me semble évidente parce que je ne vois pas comment une assemblée composée des mêmes hommes pourrait voter l'abrogation de la loi El Khomri, pourrait voter l'abrogation de la loi Macron, pourrait changer totalement de politique.
Vous voulez vous rassembler avec Benoît Hamon, mais à condition que Benoît Hamon exclue une partie de ceux qui sont avec lui.
Non, à condition nous demandons une garantie comme quoi il est cohérent. Comment voulez-vous que... Imaginons que Benoît Hamon gouverne ce pays, qu'on gouverne ensemble. Comment voudriez-vous qu'avec des députés qui disent à l'avance...
Des députés qui seront élus par des électeurs, ce sont les électeurs qui choisiront.
Eh bien, nous proposons, par exemple, on aimerait bien savoir ce que propose, par exemple, Benoît Hamon. Est-ce que c'est un label ? Est-ce que c'est un label qui permettrait, par exemple, d'identifier une majorité parlementaire qui appliquerait une telle politique ? Et dans ces cas-là, chacun comprendra que ça ne peut pas être en réalité l'amnistie de tous ceux qui viennent de gouverner depuis 5 ans avec une politique sur contre lesquelles la majorité des Français sont largement opposés, sinon François Hollande se serait présenté à cette élection. Et ensuite, nous avons effectivement des garanties programmatiques, dont une, qui est une des différences que nous avons avec Benoît Hamon, qui est la question de l'Union européenne. Parce que nous disons, oui, il faut transformer l'Europe, il faut essayer de la transformer radicalement. On a une année 2017... j'écoutais Bernard Guetta tout à l'heure qui expliquait qu'il y a une élection en Allemagne en 2017 et nous pensons que justement il y a une fenêtre pour essayer de transformer radicalement les choses à partir du moment où la France proposera de négocier sur des bases radicalement différentes de celles des traités actuels. Mais ça implique une condition, c'est le fait d'avoir un plan B, c'est-à-dire de pouvoir faire pression, comme quoi si nous n'y parvenons pas, nous ne sacrifierons pas le programme pour lequel nous avons été élus par rapport à l'Union européenne, qui est quand même le seul espace de libre-échange au monde qui n'a aucune harmonisation sociale et fiscale, et qui est une prime au dumping avec toutes les catastrophes qu'on connaît. On ne peut plus continuer comme ça.
Vous ne craignez pas de donner l'impression, Éric Coquerel, que Jean-Luc Mélenchon préfère la pureté de ses idées que la mise en œuvre d'une partie d'entre elles ?
Non, au contraire, on veut gouverner le pays. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle, une des preuves que nous voulons gouverner
le pays,
c'est que...
Mais si l'électorat de gauche continue de se partager à part égale entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon,
nous, on a un programme,
on n'y arriverait pas.
On a un programme, on l'a budgété. Monsieur Macron, y compris Monsieur Hamon, n'ont toujours pas de programme, y compris parce qu'en réalité, Monsieur Hamon participait à une primaire, donc chacun sait qu'elle était faite pour Monsieur Hollande, là, au départ. Ils n'ont pas de programme. Nous, on a un programme, on a une cohérence, on a un projet, on va le présenter aux Français. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon peut être au deuxième tour, et que s'il est au deuxième tour, c'est le candidat qui a le plus de chances de battre Marine Le Pen, si c'est elle, la candidate en face de lui.
L'impression aussi, Éric Coquerel, parfois que vous avez du mal avec l'idée du rassemblement. Vous avez annoncé votre candidature législative en Seine-Saint-Denis face à Bruno Le Roux, dans une circonscription où le Parti communiste avait déjà désigné un candidat. Le PC n'est plus un partenaire.
Vous avez des très mauvaises informations, parce qu'apparemment, ils ont une consultation samedi, donc ils ne l'ont pas encore désigné.
Frédéric Durand n'est pas candidat.
Et nous, France Insoumise a choisi un candidat, en l'occurrence moi, je parle des insoumis locaux. On verra bien la suite. Moi, je souhaite qu'il y ait un seul candidat, en gros, de tous les partis, forces qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon. Donc, on verra bien comment ça arrive. Mais pour l'instant, le Parti communiste n'a pas encore désigné de candidat.
Mais vous avez vu le couac que ça a provoqué, puisque le meeting qui devait avoir lieu mardi à Saint-Denis a vu la participation de Marie-Georges Buffet, de Clémentine Autain et de François Ruffin annulée.
C'est vrai que sur leur pression de leur parti, notamment, Marie-Georges je l'ai regretté, ils ont préféré remettre ce meeting. Mais figurez-vous, on en a profité pour faire une rencontre avec tous les animateurs de lutte avec lesquels je suis en permanence dans les rues, des migrants, des travailleurs sans papiers, les gens de la compagnie Jolimôme, des gens qui faisaient l'extraordinaire rassemblement de Bobigny, des jeunes des quartiers populaires, dont malheureusement on a peu parlé, parce qu'on a surtout parlé des échauffourées qui ont eu lieu le soir. Et du coup, ça a été un moment tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire d'implication citoyenne. Et de la manière dont moi je considère la politique, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre les luttes et une campagne. Ça sert les deux à transformer les choses et la société.
Et donc le Parti communiste est un partenaire.
Bien sûr que c'est un partenaire. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon va rencontrer Pierre Laurent demain.
8h31 et Éric Coquerel, invité de France Inter ce matin. On vous retrouve dans quelques minutes avec les questions des auditeurs de France Inter.